Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Sold Out, déjà le 20e de la 5e saison. Salut Charlotte!
Salut Marc!
Bienvenue à ce micro Charlotte!
Merci!
Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais?
Donc je suis Charlotte Gorichon-Brosse et je dirige Caramba Culture Live.
Exactement, et la particularité, c'est que tu diriges cette merveilleuse boîte de prod indépendante dont la marque de fabrique, la patte, c'est l'éclectisme, la diversité, avec ton papa, puisque vous
Exactement.
Êtes plus ou moins en tandem, c'est ça?
On est en tandem. Moi, je m'occupe plutôt de la partie très opérationnelle, de diversification financière, de gestion au quotidien de la structure. Et Luc est plutôt sur la partie artistique et le développement du catalogue.
Bon, bah alors ça, c'est fantastique parce que ce qui nous intéresse, c'est comment on projette Caramba dans le futur, comment vous répartissez les rôles, comment aussi vous avez développé de nouveaux métiers. Et si tu veux bien, Charlotte, on va parler de tout ça dans cet épisode de Sold Out qui commence maintenant.
Est-ce que tout est prêt?
Oui, monsieur le directeur.
Bon, alors je vais faire commencer.
On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de choses vécues par des professionnels du spectacle vivant.
Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier.
On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus.
On parle d'humain, non?
Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein.
Sold Out.
Sold Out.
Le podcast de Delight.
Le podcast de Delight.
Je suis Charlotte Gorichon-Brosse, je dirige Caramba Culture Live depuis 2017 et je travaille du coup aux côtés de mon papa.
Premier billet vendu.
Premier billet vendu, alors c'est un spectacle que ma mère organisait quand on était dans les Deux-Sèvres, où là on a grandi. C'est un spectacle qu'elle faisait en fait pour nous envoyer en classe d'hiver, en classe de mer, en classe verte, avec les écoles du village en fait. Et donc elle faisait, elle rassemblait tout le village, chacun avait sa mission. Toi tu fais les costumes, toi tu fais les décors, toi et chacun avait son rôle. Et en fait, on se produisait vraiment dans ce village et ça a tellement bien marché qu'en fait on s'est produit dans un petit village de 500 personnes et puis on est allé à Niort quand même qui voilà et on faisait les arbres de Noël avec les majorettes du village. Enfin, dire c'était devenu une grosse affaire. Ouais,
et
ouais.
Bah, écoute, c'est un très beau premier billet vendu parce qu'il est très original. Il est comment? Il est aussi original le dernier billet vendu?
Alors, le dernier billet vendu, c'est pour un des podcasts de Ben Mazuet, qu'on a signé récemment chez Caramba, pour son podcast qui s'appelle Amour Jungle, et qui, en fait, parle de correspondances que Ben a eues pendant le Covid. Et ça parle de relations amoureuses, mais pas que. Et en fait, c'est plusieurs podcasts dans lesquels il invite des personnalités à lire ses courriers du cœur, finalement, et à débattre de ses courriers. Et c'est
enregistré en public.
Enregistré à l'archipel. Ouais. C'est super.
Sold Out, saison 5, épisode 20, avec Charlotte Gorichon-Brosse, directrice générale de Caramba Culture Live, enregistré dans les bureaux de Delight à la fin du mois de mars 2024. Bon alors Charlotte, pour toi, tout a commencé non pas à Paris, mais à Niort, c'est ça?
Et oui, je suis née à Niort en 1977.
Je ne me serais pas permis de te demander.
Ah bah ça y est.
Et donc toi alors, on saute directement vers les études, t'as pas étudié la musique, t'as plutôt étudié les arts graphiques.
J'ai étudié les arts graphiques et avec une spécialisation imprimerie. Parce qu'il y a quelques années encore, on imprimait sur du papier et ça me passionnait. Et effectivement, j'ai démarré, moi, ma carrière chez Gallimard en faisant des livres pour enfants.
En 2000, dans les éditions littéraires. Ah oui, ouais. Qu'est-ce que tu aimais là-dedans, dans l'écrit? Tu aimais qu'il reste quelque chose?
J'aimais la fabrication, j'aimais l'impression sur le papier, j'aimais la reliure, j'aimais même le travail collectif d'avoir l'éditeur, l'éditrice, l'illustrateur, le graphiste. C'est des grosses équipes quand même derrière. Et après, le choix du papier, le choix des finitions, de tout ça, mais j'adore encore ça aujourd'hui.
Ouais, ça se voit, comme tu en parles, c'est génial. Ouais. Parce que, en fait, ce que tu aimes, c'est tous ces gens qui maîtrisent quelque chose et qui arrivent à créer ensemble un objet ou
un
objet artistique.
Ouais. Ouais, un objet artistique ou même un objet que tu transmets, qui reste, que tu offres, que tu... Ouais, ouais, ouais.
Et alors, t'es restée 2 ans, c'est ça, chez Gallimard ?
Non, je suis restée 1 an chez Gallimard. Ouais. Et puis après, je suis rentrée dans une autre maison d'édition, ouais. Où là, on faisait des beaux livres plutôt. Donc sur des projets qui étaient un peu plus longs. Et puis, je suis très vite rentrée dans une agence et galerie qui s'appelle Créo, de design contemporain.
Alors ça, moi, je ne connaissais pas. Tu nous racontes ce que c'est, ça ?
Alors, c'est une agence et une galerie, mais c'est surtout maintenant une galerie aujourd'hui. Mais quand je suis arrivée, moi, en 2002, c'était une agence et la galerie démarrait. C'est une agence avec des designers contemporains,
ouais.
Qui faisaient des projets pour des entreprises, en l'occurrence... si on a le droit de les citer.
Oh, on a le droit de citer ce qu'on veut.
Nestlé Waters, on a fait le verre Perrier avec Martin Zekely. On faisait des objets en fait, de design.
Ouais.
Et puis de cette agence-là a commencé le travail de la galerie. Avec les mêmes designers, on s'est mis à faire des productions limitées de meubles et avec vraiment des grands, grands designers. Et donc moi, j'ai passé 17 ans. Dans cette galerie effectivement collaboré avec je pense les plus grands designers aux côtés de Clémence et Didier Krentowski qui sont les patrons de la galerie et qui sont deux grands collectionneurs voilà. Et moi j'ai vraiment appris beaucoup beaucoup aux côtés de Clémence et Didier je leur dois vraiment toute ma formation et toute mon assiduité, toute ma rigueur, le fait de faire des choses, d'aller jusqu'au bout des choses. Enfin, c'est vraiment important pour moi, cette partie de ma vie.
Mais c'est important pour nous aussi, parce que ce qui est très intéressant dans ce profil par rapport aux gens qu'on reçoit d'habitude dans Sold Out, c'est que tu n'as pas commencé, toi, par la production de spectacle, tu n'as pas commencé non plus par la musique ou à te produire sur scène. Tu as eu une toute autre vie assez différente avant. Alors, j'imagine, jamais très loin des scènes, parce que ton papa, quand même, il devait vous raconter ce qui se passait, Luc Gorichon.
Moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Oui, ça, c'est sûr. Je veux dire, nous, on... Enfin, ce qui est un peu déroutant parce que les Alain Bachung, les Jacques Higelin, les on petit déjeunait ensemble, je les voyais passer à la maison en pyjama presque, enfin tu
mais
vois
vraiment
donc mais oui. Moi je me rappelle de Catherine Lara, de gens qui défilaient à la maison, c'était mais tu te rends pas compte quand tu as 5 ans, quand tu as 7 ans, quand tu as même 10 ans, t'es enfin c'est normal quoi, tu as des gens qui sont à la maison qui passent voilà, tu vas sur les concerts et moi j'ai démarré. Enfin, je me rappelle très bien des caravanes, des chapiteaux. Il n'y avait pas de salle de spectacle.
Absolument, absolument. Ce que l'on racontait Rose Léandry dans un précédent numéro. Mais bon, alors pour les gens qui n'ont pas écouté dans l'épisode avec Luc Gorichon, ton papa est le fondateur de Caramba, moi je vais essayer de résumer ça en une seconde. Luc, c'est quand même quelqu'un qui a créé cette boîte, donc très indépendante, qui a bossé avec des artistes immenses et qui a la réputation notamment d'être très, très humain, très intéressé par l'humain, par l'autre, par les artistes. C'est aussi pour ça que les artistes peut-être venaient chez vous. On n'était pas seulement dans une relation de business.
Ah oui, Luc, c'est alors évidemment un passionné. Tout est basé sur l'humain, mais c'est aussi quelqu'un de très intuitif. La structure, elle est familiale. Je veux dire, mes parents ont vraiment travaillé main dans la main pour faire ce que Caramba est aujourd'hui. Je pense que j'exagère pas si je dis qu'on est amoureux de nos artistes. On est vraiment amoureux de nos artistes. Je veux dire, on développe on est à leur côté, mais pour eux, enfin, c'est vraiment notre priorité dans le travail aujourd'hui de Caramba. Quoi.
Mais toi, avant d'arriver à Caramba, et on racontera dans un instant comment, ces premières années, ces 15 premières années de ta vie professionnelle, ce qui est, c'est ça, de 2002 à 2017, ce qui est étonnant, c'est que tu es à la fois si loin, si proche, c'est-à-dire si proche dans ta vie perso, presque, avec dans ta famille, et finalement dans un tout autre univers professionnel qui te passionne complètement.
Bah, je pense que les designers avec lesquels je travaillais, c'est des artistes aussi. Donc finalement, tu passes du design à la musique avec des repères qui sont... Tu ne crées pas une table, mais tu fais un album. Mais tu as quand même tout ce process artistique de création. Un artiste a besoin de son indépendance quelque part. Voilà. Et nous, on est au service de ces artistes-là. J'étais au service des designers pour aboutir à une exposition à la fin et pouvoir produire les plus belles pièces possibles. Aujourd'hui, moi, j'ai la prétention de dire qu'on a envie d'accompagner nos artistes et de produire les meilleurs shows possibles, en étant toujours plus exigeants sur la qualité, sur la scénographie, sur... sur même l'expérience du spectateur dans les salles. Enfin, je veux dire, c'est, ça fait partie vraiment de nos...
De votre ADN, de ce que vous êtes profondément.
Ouais.
Mais est-ce que tu as toujours su ou est-ce que tu as toujours eu l'intuition qu'à un moment, tu serais aussi aux commandes ou en tout cas que tu travaillerais pour Caramba? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu voyais ta carrière tracée dans les galeries d'art?
Non, je pense que je ne me suis jamais projetée aux côtés de Luc dans cette affaire. C'est venu plus tard. Enfin, j'ai passé 15 ans effectivement où on se voyait, mais on parlait rarement travail en fait. C'était assez. On est très familial, on est très centré sur les frères. Enfin, je veux dire, mais on n'est pas donc c'était non, ça faisait pas partie de mes projections du tout.
Et comment on arrive à Caramba en 2017 alors? Qu'est-ce qui s'est passé du coup pour que tu te retrouves notamment aux commandes de cette boîte?
Bon, en fait, Luc a eu des petits soucis de santé, effectivement, à un moment donné.
Il nous en avait parlé, je me permets de te couper, parce qu'il a commencé le podcast en disant qu'il était un survivant. Je crois que Luc, il a failli ne pas vivre même au début.
Mais il est mort-né.
Ouais.
Il est mort-né.
Ça explique beaucoup de choses hein, de cette personnalité.
Ouais, ouais, il est mort-né. Enfin, moi, j'ai cette anecdote qui est la machine, entre guillemets, qu'il a ressuscité à l'hôpital à l'époque, quand il est arrivé au monde. Ça s'appelait, je crois que ça s'appelait Ressuscitor. Enfin, je veux dire, c'est un... Non, mais elle n'était même pas en route. Enfin, ils l'ont déballé des cartons et ils l'ont mis en route pour... Oui, oui, donc Luc, il a un démarrage qui est effectivement...
Et parfois, il a eu dans sa vie des soucis de santé. Donc, en 2017, il y a eu un souci de santé.
Alors, il y a eu un souci de santé avant. Et moi, j'ai mis un an à peu près à quitter Créo et à le rejoindre et à me dire, allez, on lâche pas l'affaire. On va y arriver ensemble.
Et pourquoi toi, alors que tu as des frères, enfin, tu es dans une fratrie?
Parce que je pense que... Alors, Lucas, qui est mon petit frère, on a 10 ans d'écart. Je pense que c'était un peu trop tôt pour lui. Et Julien, je pense que... Lui, qui est réalisateur, je pense que manager une équipe... on n'en a jamais vraiment parlé, à vrai dire, de plus... Enfin, en fait, ça s'est présenté comme ça. On était tous les trois assis aux urgences de la Riboisière. Ouais. Et on s'est dit, allez, qui y va? Plouf, plouf. Et c'est moi qui voilà, je me suis lancée, mais je regrette rien.
Sold out. Le podcast de Delight.
Bon, t'as la délicatesse de rire en parlant des urgences et tout. Je vais pas te faire réagir là-dessus, mais je trouve que c'est une grande élégance parce que ça devait pas être si fun que ça en fait. Hein. Mais bon, t'arrives aux commandes. T'arrives à Caramba, en tout cas, qui n'était pas dans les locaux actuels à ce moment-là. Qu'est-ce que tu découvres? Tu dois halluciner, c'est pas du tout les mêmes us et coutumes que dans l'art. Enfin, quelle est ta réaction, ton rapport d'étonnement?
C'est déjà une grosse boîte.
Ben oui, ils étaient combien à l'époque? C'est déjà une grosse
boîte. On était moins de 30, je pense.
Okay.
Moins de 30. Donc, c'est déjà une structure avec des services, avec différentes typologies de musique. Enfin, ça roule en vrai. Hein. Quand j'arrive, ça roule. Mais moi, ma mission, quand je suis arrivée, elle a été de finalement d'accompagner mon père sur... moi, j'étais vraiment là pour que ça continue et que je le soutienne et que je sois un peu comme... à ses côtés au quotidien pour que ça continue. Mais j'avais pas du tout de prétention de me dire on va aller loin, on va développer l'activité. Non, j'étais plutôt dans l'urgence de la situation à me dire ah, mais ça peut pas s'arrêter maintenant quoi.
La crainte c'était que Luc soit pas assez présent, soit pas assez disponible juste pour assurer la continuité du
truc.
Ouais,
de le soulager sur des parties, enfin tu vois, pour qu'il ait plus de temps, que ça soit effectivement moins lourd au quotidien. Donc au début c'était ça, c'était l'urgence de On continue l'activité, quoi.
Et est-ce que la répartition des tâches entre vous était intuitive ou est-ce que vous en avez parlé de la manière de ce qu'il allait continuer à faire, de toi ce que tu allais faire, ou est-ce que ça s'est fait naturellement?
Non, on est tous les deux cancer.
Wow.
Non, et on est tous les deux très très intuitifs. Ouais. Et en fait, ça s'est fait de manière assez vraiment au fil de l'eau, de se dire je fais ça, moi je vais prendre ça, je vais m'occuper de ça. Évidemment, on a des appétences différentes. Je me suis vraiment focalisée à un moment donné sur la gestion, sur la structuration de la boîte aussi, sur la partie recrutement, d'avoir vraiment de monter au niveau expertise aussi au sein de Caramba, d'avoir des profils de plus en plus capés, hein, on dit ça. Voilà, et Luc a un rapport avec les artistes qui est... qui est juste magique, quoi.
Est-ce que c'est un résumé trompeur de dire que Luc, c'est un peu le cœur et toi, la raison ? Enfin, en tout cas, Luc, l'artistique, toi, la gestion, mais c'est un peu simpliste comme manière.
Bah si,
de...
en fait, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'on a une petite blague au bureau, en général... non, mais Charlotte, elle a dit non, mais je vais aller voir Luc, il va me dire oui.
Et ça te fait rire ?
Ben oui, parce qu'en fait... on change pas qui on est. Enfin, tu vois, on va travailler comme ça encore pendant pas mal d'années, je pense.
Et vous l'assumez.
Et on l'assume complètement. Et moi, je suis effectivement la raison de dire, ok, on s'engage sur ce projet, mais on peut pas dépenser. Enfin, je veux dire, j'essaye d'être raisonnable et raisonnée dans les projets. Et de temps en temps. On craque, et heureusement qu'on craque.
J'ai envie on craque, on brûle la banque, c'est ça ? On fait n'importe quoi parce qu'on y croit ?
Ouais, parce qu'on se dit, allez, c'est tellement beau, c'est tellement fort, on ne peut pas s'arrêter en cours, quoi. On y va, tant pis, et puis on verra bien demain.
Mais est-ce qu'il y a des moments, je me permets, c'est pas pour chercher la merde, mais est-ce qu'il y a des moments où ça t'a rendu fou la réaction de Luc, où toi t'avais refusé un truc, où les équipes sont allées le voir, elle a dit, vas-y, on y va ? Est-ce que vous avez été schizophrène là-dessus ?
Non, jamais.
Jamais ?
Jamais. Parce qu'en fait. J'essaye de faire vraiment dans la continuité. Ouais. Tu vois,
c'est avant tout lui qui est en bas.
C'est sa boîte. Enfin, ouais. Moi, je le dis.
Mais c'est joli de dire ça.
Je suis au service d'eux et j'ai aucun souci. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que je le vis au quotidien. Je suis là pour faire du mieux possible, si tu veux, mais je suis pas là pour changer la trajectoire qu'il a créée et qu'il a écrite depuis tant d'années. Tu vois, c'est pas du tout. Ça serait pas une bonne idée en plus, tu vois. Donc,
t'es là pour l'armer et la rendre possible.
Ouais, et pour sécuriser des choses. Moi, j'aime bien anticiper, j'aime bien prévoir. Tu vois, je suis un peu dans cette partie d'organisation. Et je pense qu'aujourd'hui, notre secteur nous demande d'anticiper et de prévoir.
Eh ouais, parce que c'est de moins en moins facile de lire la suite.
C'est de moins en moins facile ou de plus en plus dur, je ne sais pas comment il faut. Oui. Mais je pense que c'est des jeux dont on ne maîtrise pas grand-chose en vrai. Donc,
on prend des exemples ? On prend des exemples ? Sur les quoi ? Sur quoi, par exemple ? Sur l'inflation ? Sur les recrutements des talents ? Sur,
Je pense qu'on pourrait y passer vraiment beaucoup de temps, mais tous les pôles de Caramba, tous les services de Caramba aujourd'hui ont un petit caillou à régler sur... Le recrutement, c'est effectivement un sujet, mais je pense que c'est un sujet pour pas que Caramba et puis pas que dans la musique, en vrai. Hein, cette transformation-là et ces mutations, elles sont importantes et je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute et faire toujours à sa façon, évidemment, et avec l'ADN de la boîte, etc. Mais c'est quand même des sujets importants. Après, la production, effectivement, on a les coûts qui ont explosé de matériel, de tourbus, de transport en général. Et nos marges, elles sont tellement réduites. Hein. Je ne veux pas faire mon caliméro, mais quand même, les marges sont réduites.
Ce n'est pas une légende, ça. Les marges, elles sont vraiment réduites.
Ouais, elles sont vraiment réduites. Et dès qu'on explose ce genre de coût, on a un impact mais qui est énorme, tu vois.
C'est directement de la perte.
C'est directement de la perte. Je pense qu'il faut avoir en tête que nos modèles... on a beaucoup de chance en France parce qu'on a des structures. Dans la culture, on est quand même énormément aidé. Maintenant, si ça n'existait pas, je pense qu'on ne serait pas là.
Mais est-ce que c'est aussi parce que Caramba, c'est d'abord des coups de cœur pour des artistes, avant d'être un compte de résultats ?
C'est du développement, c'est des paris qu'on fait, c'est des investissements. Et en fait, on a essayé depuis toutes ces années, effectivement, à équilibrer. Enfin, moi, j'ai vraiment participé à équilibrer l'activité, à diversifier l'activité, parce qu'on ne peut pas être dépendant, effectivement, de toutes ces subventions parce que c'est pas sain. Et puis, quand tu diriges une boîte, c'est ce que je disais cette semaine à nos collaborateurs et collaboratrices, je leur disais, mais c'est compliqué de se projeter, de travailler sur un modèle de business quand du jour au lendemain, quasiment, ça peut changer.
Mais il y aura toujours des artistes qui joueront sur une scène.
Il y aura toujours des artistes qui joueront sur une scène. Bah ça, j'y crois fort, ouais.
Ah ouais, quand même. Ouais.
J'y crois fort.
Tu me fais peur.
Mais je suis plutôt très optimiste comme personne et j'ai toujours, tu vois, le je pense la banane de me dire non mais on va y arriver, ça va le faire et on lâchera rien. Mais c'est quand même pas facile, ouais.
Ce qui est pas facile, c'est que On ne sait pas si les publics seront là, on ne sait pas s'ils répondront au présent, on ne sait pas combien ça coûtera. C'est ça qui est compliqué ?
Non, mais c'est parce que oui, on parlait des coûts et que tout se contracte et qu'à un moment donné, on a envie de suivre l'artiste dans une scénographie, on a envie de suivre l'artiste dans un projet, tu vois, d'envergure, on a envie de... et je pense que ça... Voilà, mais il faut garder un œil sur cet équilibre toujours et vraiment bien gérer avec une vision vraiment globale de l'entreprise, quoi.
Sold Out.
Sold Out, le podcast de Delight.
Alors justement, Charlotte, pour se projeter dans les nouveaux modèles de gestion d'entreprise, il y a un truc qui est à ton dada et qui est vraiment ce que toi aussi t'as imprimé chez Caramba, c'est la diversification. C'est accéléré ça, j'imagine. Hein.
Oui, Luc avait déjà commencé effectivement et initié ça.
En faisant rentrer des nouveaux talents.
En faisant entrer des nouveaux talents et la diversification, elle se fait tant sur le pôle musique, d'ouvrir effectivement les différentes typologies de musique.
Tu peux nous pardon, je t'interromps une seconde, mais parce que tu peux nous définir ce que tu entends toi par diversification ?
Bah, je l'entends au niveau esthétique musical, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit que Caramba est généraliste. Il y a quelques années, je disais, bah, ok, on est généraliste, mais on n'a pas d'urbain. On n'a pas de pôle urbain chez nous. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu es généraliste sans avoir une activité qui rassemble quelques artistes. Et donc, on a démarré ce pôle en 2019. Et aujourd'hui, on a quelques artistes qui comptent sur ce pôle urbain. Donc, c'est de la diversification. Vraiment, là, on est dans notre cœur de métier. Hein.
Ouais, enfin, étend le cœur de métier.
On étend le cœur de métier. Donc sur la partie musique, c'est ça. Et après, sur la partie activité autre que la musique, on développe l'activité de spectacle.
C'est quoi activité de spectacle ? Ça veut dire c'est tout des spectacles non musicaux.
Tout voilà, sauf la musique. C'est tout sauf la musique.
Tu me donnes un ou deux exemples de spectacles comme ça que vous avez développés ou,
On a Murmuration qui était en ce moment au 13e art. Donc c'est vraiment des spectacles grand public. On a le Slavas No Show, mais ça depuis...
C'est comme
plusieurs
ça que j'ai
années.
Connu Caramba, c'est une merveille.
Ouais, incroyable.
Spectacle sublime de Noël, mais avec un clown russe tellement poétique.
Magnifique, magnifique.
Chaque fois, moi, je me donne envie de pleurer. Ouais.
Et le pôle spectacle, il s'ouvre et en fait, il s'agrandit avec l'activité aussi d'exposition immersive.
Ah oui, ça, c'est quelque chose que tu développes particulièrement, ça.
Alors, particulièrement, en tout cas, c'est un sujet qui me tient à cœur.
Ouais. C'est un nouveau modèle, en fait.
Et puis, j'ai embarqué avec moi, effectivement, des personnes chez Caramba qui ont dit « Banco, on y va ». Et là, on recrute sur ce pôle-là pour développer l'activité, parce que je pense que c'est un nouveau modèle de divertissement, enfin c'est un nouveau format.
Mais c'est quoi ces expos immersives ? C'est Tim Burton, c'est ça ?
Alors c'est Tim Burton à la Villette l'année dernière.
Tu nous racontes
l'histoire ? Nous on était prod exé, hein. C'était un projet qu'on a porté
pour le compte. Tu l'as importé dans notre pays ?
Ouais, tout à fait.
Encore fallait-il le livrer en France, ce projet ?
Oui, en fait on est allé le voir en Espagne et puis on a craqué et on s'est dit non mais moi les Espagnols, je leur ai dit, je veux ce projet en France. Et on s'est entendus et ça l'a fait. Mais bon, c'était... Voilà.
Mais c'est un nouveau métier parce qu'il faut trouver un lieu pour pouvoir insérer cette expo.
Il faut trouver un lieu, il y a des conditions, des contraintes, on va dire, qui ne sont pas les mêmes. Après, c'est peu ou prou quand même avec des expertises de directeur technique, de directeur de production, de billetterie qu'on a nous, de marketing qu'on a nous. Donc je veux dire, quand... Laure, chez nous, fait du marketing pour Véronique Sanson. Elle peut faire du marketing pour un spectacle aussi, pour Murmuration. Elle peut faire du marketing pour Tim Burton ou pour demain, notre nouveau projet qui va s'ouvrir en juin. Donc, Et puis, c'est hyper riche aussi pour les équipes.
La seule différence, c'est que c'est toute la journée, c'est pas seulement le soir, et que c'est qu'il n'y a pas d'artiste sur scène.
C'est qu'il n'y a pas d'artiste sur scène et que tu as des rendez-vous qui peuvent être toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure. Enfin, c'est pas les mêmes... la même séquence non plus. Enfin, voilà, c'est... Mais...
C'est des modalités différentes.
Mais franchement...
Mais ça reste un spectacle. Enfin, ça reste une expérience.
Ça reste une production.
Ouais. Oui, ça reste une production.
Ouais. Ouais.
Et puis, vous avez aussi, je crois, investi ou co-investi dans 13e art, la salle de spectacle dans le 13e arrondissement.
On a un petit peu investi dans le 13e art, tout à fait. Et ça, c'est une aventure... je pense qu'on aime les lieux avec Luc aussi. Ça fait partie, je pense, de... Alors, je ne sais pas si je... Mais de rêve de producteur aussi, d'avoir un lieu.
C'est la liberté, tu peux programmer ce que tu veux.
De se dire, voilà. On continue d'ailleurs le développement de recherche de lieux aujourd'hui, de se dire, moi, j'aimerais beaucoup avoir un lieu dans lequel je peux produire effectivement les concerts et c'est l'âme. Enfin, tu vois, il y a un vrai truc avec le lieu qui, je trouve, boucle l'histoire, quoi.
Donc, 13e art, c'est le début de l'expérience.
C'est le début et c'est super chouette. Enfin, vraiment, l'aventure est géniale. Et ouais, on va continuer, ouais. Ouais.
Et puis au-delà de ça, vous avez également ouvert une agence événementielle pour.
Et on a une agence événementielle, ouais, pardon, qui s'occupe de projets B2B. Là, on est vraiment
c'est pour
sur
vendre des trucs aux marques, c'est ça.
On fait des soirées privées. Et en fait, on a les artistes de Caramba évidemment qu'on met en avant, mais pas que. Donc c'est une dynamique naturelle. Tu vois, d'une activité où, en fait, on le faisait plus ou moins déjà avant, mais c'était pas organisé ni structuré. Là, aujourd'hui, on a une personne qui dirige l'agence. L'agence s'agrandit. On a des projets qui sont très chouettes aussi. Donc, ça fait partie de l'écosystème.
Et justement, vous êtes indépendant foncièrement. Vous n'appartenez à aucun grand groupe.
Ça appartient à Luc, ouais.
Est-ce que ça veut dire, quand on est indépendant et qu'on appartient à Luc et à une famille, est-ce que ça veut dire que nécessairement, on doit être comme ça, diversifié, avoir plein d'activités, innover tout le
non,
temps?
Non, je ne pense pas.
Non ?
Non, non, parce qu'en fait, on avait le choix, je pense, de... Parce que quand moi, je suis arrivée, on était moins de 30. Aujourd'hui, on est 46. Donc, on aurait très bien pu se dire... Il y a 7 ans, 8 ans, on s'arrête là, hein, tu vois. On devient expert d'expert. On fait encore mieux ce qu'on sait faire aujourd'hui et on développe vraiment, on travaille sur ce catalogue qu'on a. On fidélise nos artistes, enfin les artistes, mais on ne diversifie pas forcément. Et je pense moi j'étais en phase avec Luc là-dessus mais on a envie de faire autre chose, on a envie d'ouvrir, on a envie de...
Ça procède de l'envie, en fait, avant tout.
Ouais.
Comme tout
et
chez vous.
Et des rencontres.
Comme tout chez vous, en fait.
Et des rencontres, tu vois. Ouais. Je pense que c'est... Enfin, l'humain, comme tu disais au début, est vraiment au cœur, des projets, quoi. Ouais.
Et alors, toi, tu nous disais au début de cet épisode que tu étais avant tout une gestionnaire. Mais est-ce qu'au total, une boîte de production, c'est une boîte comme une autre?
Ah, je pense.
Tu penses?
Ouais, moi, je pense que ça se gère pareil, ouais. Oui, on travaille plus le soir presque. Enfin, je veux dire, on a effectivement des rythmes de vie qui sont spécifiques. Mais il y a plein d'entreprises où les rythmes sont spécifiques. Hein, tu vois, ouais.
Et c'est pas compliqué ça pour les nouvelles générations aujourd'hui?
Alors écoute, moi j'ai deux filles, bientôt 10 et 16 ans. Et j'essaie de comprendre effectivement par elles aussi, hein, parce que on discute beaucoup des enjeux et des sujets d'actualité. Je pense que moi, j'ai fait partie de ces générations où, en fait, on travaillait beaucoup sans compter les heures. On revenait le samedi, c'était pas un problème. Ça n'a jamais été un problème, en fait, de s'investir plus que ce qui a marqué sur le contrat. Mais on n'avait pas non plus Moi, j'avais pas peur qu'il fasse trop chaud dans 10 ans et comment j'allais vivre et comment ça allait se passer. J'avais pas peur que la guerre. J'ai grandi dans un. Ouais, dans un. Alors peut-être dans le monde des bisounours aussi, tu vois, mais sans cette angoisse-là.
Bah non, on parlait même à l'époque, souviens-toi, de la fin de l'histoire. On pensait que les démocraties avaient gagné pour toujours, etc. Enfin,
au quotidien, tu vois, on vivait quand même. Voilà, alors la génération de Luc. Et de Mickey, je pense encore.
Mickey, c'est la
c'est la maman.
Ouais, exactement.
mais aujourd'hui, moi, ce que je comprends, c'est que ces générations, elles se disent, ok, super, mais on veut trouver le bon équilibre entre le perso et le pro, parce que il y a au loin cette échéance qui est moins rose, quoi, tu vois.
Et justement, c'est la dernière question rituelle de Sold Out, justement. Ces nouvelles générations, ces jeunes personnes qui ont envie de bosser dans le live, qu'est-ce que tu leur dis, toi, quand elles t'écrivent ou que tu les rencontres?
Ah non, mais on s'éclate, en vrai, on s'éclate. Non, mais c'est un secteur qui est incroyable, qui te fait vibrer. Voilà, Alors, je pense qu'il faut être passionné de musique, enfin, à un moment donné, mais pas que, parce qu'après... je pense que dans ces générations-là, elles sont, elles ont soif d'apprendre, elles ont soif de, tu vois, de partager, de vivre ensemble des choses. Enfin, tu vois, on est dans une histoire de collectif qui est vraiment devenu important. C'est pas chacun dans son coin et tout. Et pour le coup, la production, on est vraiment plusieurs sur un même projet à travailler ensemble au quotidien, tu vois. Donc on compte les uns sur les autres tous les jours, quoi.
Donc le conseil que tu leur donnes, c'est si vous avez envie, allez-y parce que c'est génial et notamment ouais. C'est une aventure collective.
Ouais, ouais, vraiment.
Ouais. Et d'ailleurs, vous recrutez ou chez
Et d'ailleurs, on recrute. On recrute. À la com, comme marketing, sur le nouveau pôle d'expo immersive.
J'adore parce que c'est des super bonnes nouvelles. C'est-à-dire que c'est dur parce qu'on ne sait pas vraiment comment se projeter demain. Ouais. Mais en revanche, on continue d'y croire et on est indépendant et ça continue de grandir.
Ouais, il faut investir. Ouais.
C'est génial, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci, Marc.
Merci de t'être arrêté à ce micro. Et j'ai dû insister parce que tu n'aimes pas te mettre en avant tellement. Hein.
Je déteste
ça, mais regarde, c'était super. Merci beaucoup, Charlotte.
Merci beaucoup.
Et à bientôt dans un prochain épisode de Sold Out dès la semaine prochaine. Ciao.